Merci beaucoup. Juste un moment de ma voix. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Voilà, ça me fait très plaisir d'être une fois sur l'estrade parce que je viens chanter avec Ars Vocalis et nous avons de temps à autre une répétition. Je suis assis sur les chaises ici. Alors, quand j'ai proposé ce thème à Viviane, en route vers la maturité, elle m'a dit, mais écoute, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment de cela que tu veux parler? Est-ce qu'il n'y a que des gens matures? Ou la plupart, excusez les plus jeunes, hein, vous faites partie aussi de la maturité. Et ce que je lui ai répondu, c'est qu'en fait, la maturité chrétienne, c'est quelque chose de différent de la maturité. On parle de l'âge mûr, on parle d'obtenir une maturité, on parle parfois de grandir, cesse de grandir, mûrir, mais la maturité spirituelle, c'est quelque chose de différent, parce que la maturité spirituelle, c'est quelque chose qui n'est pas statique, c'est quelque chose qui est dynamique. Et Viviane me disait, en introduisant Matthieu, espérons que ce texte n'est pas en contradiction, certainement pas, mais gêner la présentation avec des doublons, mais non, au contraire, parce que dans la version de Chouraki, il a traduit les heureux par en route ou en marche. Et en fait, en marche vers la maturité, c'est un programme qui est là. Alors, comme j'aime bien les voir, toute petite provocation, mais très gentille, j'ai vu votre affiche. Et puis je me suis dit, si j'étais un voisin ici, est-ce que je vais venir? Parce que la première chose qui m'a frappé, j'ai vu une limitation de vitesse à 50. Alors je me dis, bon, a priori, cette église, ça va freiner, je ne vais pas pouvoir aller plus vite. Je sors d'ici maintenant, le soir, je rentre à 30. Et c'est vrai que le graphiste aurait pu mettre une fin d'imitation de 50 pour montrer que vous êtes en mouvement. Alors, c'est juste une petite remarque en passant. Et c'est pour montrer ce que c'est que cette idée de en route, cette idée du dynamisme. Et pour moi, cette présentation est venue de ces périodes de Covid où tout à coup, pour une personne qui est active, même à la retraite, je me suis trouvé comme vous, tout à coup enfermé. Et je me dis, mais est-ce que ma maturité va pouvoir continuer si elle est plus enrichie par les contacts, par les activités à l'extérieur? Et c'est une réflexion qui, au contraire, a été salutaire. Alors, je pense que cette présentation, vous devez aussi la prendre, vous poser la question pour vous, dans l'époque de vie où vous êtes. Je suis dans la période où je fête mon 70e anniversaire, je me pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi pour les 5 prochaines années, si tu me les donnes, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait, quelque chose que tu attends de moi de différent, est-ce que dans mon cœur tu as encore quelque chose à m'apprendre, et certainement les réponses sont oui, mais comment en fait rentrer dans cette dynamique, dans ce dynamisme? Mais aussi je suis avec mon épouse, parent et grand-parent. Et dans cette période, se rend compte qu'on a aussi à participer à travers notre exemple, à travers notre écoute, à travers la prière essentiellement aussi, à ce que nos enfants puissent aussi grandir. Nous avons des enfants dans la quarantaine qui sont à mi-parcours de leur chemin professionnel, qui se posent des questions. Et est-ce que je peux être un encouragement pour leur propre maturité et aussi spirituelle? Et nous avons aussi des petits-enfants qui nous posent des questions, qui nous regardent vivre, et on sait que pour eux, c'est vraiment plus ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, parce que, après, quand on leur parle, ils sont déjà ailleurs. Et voilà, et c'est à travers notre amour, est-ce qu'on, il y a quelques questions qu'ils nous posent. Mais c'était comment, toi, quand t'étais petit? Ah, t'avais pas la télé, mais tu faisais comment, le soir? Tu sais quoi? Essayer de montrer qu'il y a une évolution de la société, mais finalement répondre en fait à leurs questions, à leurs attentes. Donc de toute façon, c'est un sujet qui est bien pour nous et qui est bien dans le sens de transmettre aussi. Alors je donne juste une définition ici qui est tirée de dictionnaire. C'est vraiment un état d'esprit, un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Alors justement, on parle toujours de cette plénitude. On verra pour nous, comme chrétiens, qu'il y a encore un but plus grand. C'est pas notre plénitude, mais c'est la maturité de la stature de Christ. On verra ça dans la partie conclusive. Synonyme, c'est aussi épanouissement, c'est aussi force, de nouveau ce mot, plénitude. Et si le chrétien est en route vers la maturité, comme je l'ai dit, c'est ce cheminement continuel. Mais ce chemin est toujours marqué par des opportunités et des menaces. Et on voit pour des associations, pour des églises, pour des entreprises, souvent on fait ces soins, comme on l'appelle, où on fait justement les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Et on se rend compte qu'à n'importe quelle période de notre vie, il y a des choses qui nous arrivent, qu'on n'avait pas imaginées, qu'on n'avait pas prévues. Il y a des temps où on se demande où était Dieu. Hier, on était avec mon épouse à la journée porte ouverte à Yverdon, il y avait un prédicateur nord-coréen qui disait, mais tout à coup, je me suis posé la question, mais où était Dieu quand mes parents m'avaient échappé et que j'étais dans une prison? Où était Dieu dans cette période-là? Et alors, pour notre maturité, lorsqu'il y a ces trous, ces vides, comment est-ce qu'on y répond? Et on voit que souvent, bien, ces périodes-là, ce sont difficiles, nous aident à grandir. Donc, grandir à la maturité, c'est une affaire d'étapes. Les déserts, on va parler aussi des déserts. Est-ce que les déserts sont formateurs aussi pour nos vies? Et puis, j'ai juste mentionné aussi ce paradoxe que Paul mentionne, c'est quand je n'ai pas les réponses, quand je suis faible. Il avait demandé par trois fois que quelque chose change dans sa santé physique. Et le Seigneur lui répond, mais non. Et Paul dit, mais quand je suis faible, je suis fort. Donc vous sentez que cet aspect de la maturité est quelque chose de différent de notre maturité de tous les jours. La maturité avec Dieu, c'est quelque chose de l'ordre du dynamisme du mouvement. Alors, il y a au niveau des définitions trois catégories qui sont mises de personnes dans la première lettre de Jean. D'abord, les petits-enfants. Pour eux, ça paraît très simple. Hein, je vous ai écrit, petits-enfants, vos péchés sont pardonnés à cause de mon nom. Et en même temps, ben, vous avez appris à connaître le Père et vous connaissez le Père. Ça, c'est ce que les enfants peuvent faire. Et pour nous, c'est vrai, comme je l'ai dit, plus âgés, que ce soit nos propres enfants ou des enfants d'adoption, nous devons être extrêmement attentifs, c'est-à-dire que c'est extrêmement précieux ce qu'un enfant a découvert. Si un enfant nous dit, ben, écoute, en rentrant dans un camp, ben, moi j'ai rencontré Jésus, eh bien on doit pouvoir se réjouir et puis dire, c'était quoi rencontrer Jésus pour toi? On va dire, bon, à 7 ans, t'as déjà rencontré Jésus, moi, j'en avais 13, et là, plouf, l'effet est tombé pour lui, il va se dire, en fait, c'était pas une vraie rencontre. Vous comprenez que l'enfant va grandir dans sa maturité, mais il est précieux aux yeux de Dieu, parce qu'il connaît déjà le Père. Les jeunes gens, je leur écris aussi, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le mauvais. Des jeunes, leur rappel, savoir voilà, quelle est la période où on se sans jeune, hein, jeune ou se sentir jeune, mais ce qui est important, c'est la période où il y a vraiment cette force qui est là. Et puis cette force, il faut pouvoir nous laisser sa possibilité de se libérer. La parole de Dieu demeure en nous, ça c'est aussi un encouragement qu'on doit faire progressivement, que la parole soit toujours là. Et puis, ils commencent à avoir des victoires, en fait, avec Dieu. Lorsqu'ils nous racontent leur victoire avec Dieu, là aussi, est-ce que eh bien, nous les encourageons, ou bien disons, ouais, ouais, moi j'avais vécu la même chose alors, en 1964, ou surtout, bon, là aussi, je fais un peu de caricature, mais est-ce que cette victoire de ces jeunes est importante pour nous? Et dans l'Église, c'est important de se dire, eh bien, que ce soit les petits-enfants, les jeunes, chacun à sa place, chacun va raconter sa vie, ses expériences avec Dieu d'une manière différente. Et puis les pères, les mères, bien, c'est vrai que les gens ne leur disent pas beaucoup, simplement, vous connaissez celui qui est le commencement. Sans Christ, c'est donc dès le commencement. Et vous avez aussi un long commencement si vous perdez votre vie. Mais vous le connaissez. Et le fait de le connaître, eh bien, c'est aussi à vous de pouvoir le transmettre. Mais ces trois catégories sont relativement statiques, vous pourrez dire. Et alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est à travers quelques exemples de l'Ancien Testament, à travers les disciples et les apôtres, juste montrer comment cette maturité a été un cheminement parfois compliqué, parfois heureux, parfois des échecs. Et le premier exemple que je voulais mentionner, c'est l'exemple d'Abraham et de sa famille. J'avais fait un voyage écourté. Térak prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Abram, sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivés à Caran, ils s'y installèrent. Et Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Caran. Alors c'est intéressant parce que Abraham avait reçu un appel. On le voit juste à la suite. L'Éternel avait dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Alors ça, c'est le chapitre 12 qui reprend ce texte, mais dans le chapitre 11, on voit que, en fait, Abraham s'est arrêté à mi-parcours. Et on peut imaginer que le problème a été son propre père qui lui a dit, mais certainement tu vas trop loin, c'est trop tôt, fais une pause, arrête-toi. Mais cette pause a duré 20 ans, jusqu'au moment où ce père décède. Et tout à coup, le chapitre 12 commence, et bien l'Éternel avait dit. Je trouve intéressant ce livre, mais est-ce que vous avez souvenir, est-ce que votre père ou votre mère, est-ce que vos parents ont été encourageants pour vous? Ou est-ce qu'ils vous ont freiné à un certain moment? J'ai toujours souvenir qu'à 17-18 ans, j'avais envie de me souvenir du Seigneur, j'avais parlé à mon père, et mon père m'avait dit, mais c'est bien, mais t'es peut-être pas encore assez mature, attends encore un peu. Alors, il a eu beaucoup de chance que j'ai réagi positivement, et que j'ai pris son conseil parce que j'aimais mon père. Et puis, je me suis dit, ben oui, je veux réfléchir à cette maturité. Et puis, une année après, moi, je suis revenu. Je dis, mais écoute, papa, tu te rappelles, il y a une année, j'avais dit que je voulais faire ça. Alors, maintenant, je suis sûr. Il m'a dit, ben, c'est bien que tu es sûr maintenant. C'était un peu comme s'il aurait voulu me tester. Mais ça peut être aussi que tout à coup, à cause de parents, parce qu'on n'a pas le courage de les quitter, peut-être pendant une période, de faire une expérience, une mission ou autre, eh bien, tout à coup, en fait, on manque une partie. Mais la promesse de Dieu est toujours là. L'Éternel avait dit, quitte ton pays, et à un certain moment, eh bien, Abraham se met en route. Et alors, pour nous aussi, comme parents, grands-parents, posons-nous la question, est-ce que nous nous mettons devant Dieu lorsqu'on nous demande un conseil? Pour ne pas non plus être des freins à ce développement de la maturité des plus jeunes. Et on voit qu'au moment où Abraham part, eh bien, il va pouvoir recevoir cette magnifique promesse. Si on passe un tout petit peu plus loin, au peuple d'Israël, oui, alors là, ma carte ne reçoit pas très, très bien, mais ce que cette carte est censée montrer, c'est que il y a attendez, je dois juste trouver le verset. Oui, en Deutéronome 1, verset 2, il est mentionné, il y a 11 jours de marche, depuis Horeb jusqu'à Kadesh-Barnéa, en passant par la région montagneuse de Séir. Alors, c'est ce que cette ligne de voyage essaie de montrer. En fait, 11 jours de marche. Et Deutéronome dit, au cours de la 40e année après la sortie d'Égypte, le premier jour du 11e mois. En fait, il y avait 11 jours pour quitter l'Égypte et rentrer dans le pays. Et on sait qu'à cause de l'incrédulité, le manque de maturité, la crainte d'affronter les gens, chez nous, un peuple qui n'était pas préparé, eh bien, le peuple s'est découragé. Ces 11 jours sont devenus 40 ans. Et en fait, ces 40 ans, on peut dire, c'est une génération sacrifiée. Et personnellement, à Port-Souef, ça m'a beaucoup frappé lorsque j'avais visité un camp de réfugiés au Liban. C'était pour la plupart des réfugiés syriens, et lorsqu'on avait été rendre visite à ces familles, on voyait les enfants dehors qui couraient, qui jouaient, qui étaient pleins de vie, plein de vie. Et puis on demandait aux parents, mais qu'est-ce que vous faites pour les enfants? Est-ce qu'ils sont toute la journée à courir ici? Il y avait des enseignants, il y avait des juristes, il y avait des gens très très bien formés. Mais vous faites quoi? Est-ce que vous prenez par exemple une demi-heure par jour pour leur donner l'école, faire autre chose avec eux? Et puis ces parents, en fait, on les aime, on n'a plus l'énergie, on n'a plus la force, on n'a plus le courage. En fait, on voit beaucoup, on peut dire qu'une génération peut être sacrifiée. Et alors les enfants, malheureusement, ils vont toujours trouver ces ressources, ils vont repartir eux. Mais c'est dommage lorsqu'il y a une génération sacrifiée. Mais même s'il y a une génération sacrifiée, bien on voit que du côté de Dieu, la fidélité de Dieu n'a pas changé. Et lorsque le peuple arrive dans le pays, eh bien, Dieu leur dit, mais souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. C'est très très beau de voir le soin de Dieu. Donc même dans ces périodes de désert où on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois, on voit la vie de nos enfants, peut-être de personnes proches qu'on connaît, on a l'impression qu'ils sont dans ces déserts. Et on peut continuer à s'accrocher à ces promesses que Dieu est là, que Dieu prend soin, que Dieu prend soin sous toutes les formes et qu'un jour, Dieu va retrouver la personne. Et c'est vrai que dans ce sens-là, c'est une illustration intéressante de se dire qu'il y a tant de générations qui sont sacrifiées. On pense maintenant à tous ces réfugiés qui sont venus d'Ukraine aussi. Et c'est vrai de se dire, mais voilà, quand est-ce qu'ils pourront retourner, quand les choses vont s'arrêter? Et comment intégrer cette nouvelle génération? Donc ce sont des choses très très concrètes pour que cette maturité soit possible. Et bien, il y a parfois ces à-coups très compliqués. Le troisième exemple que j'aimerais donner dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple de Jérémie dans ses lamentations. Et on peut se dire que pour Jérémie, la maturité du peuple va s'arrêter par la mort d'une vision. Jérémie a eu la vision de pratiquement dans tous les chapitres, il a plus de 5 ans, il a un mot-clé, reviens, revenez, revenez à l'Éternel, reviens, revenez, reviens, revenez, revenez, reviens. Et pratiquement, on peut lire tous les chapitres avec ce même mot-clé, qui à la fin va danser, ses lamentations, il est là, hein. C'est vrai, Judas est en exil, accablé par la misère, en esclavage. Il est au milieu des nations, sans y trouver de repos. La mort d'une vision. Il a pensé que le peuple allait revenir. Et parfois, c'est vrai, quand on pense à notre voisinage, à la société, des fois, on pourrait avoir cette même lamentation que Jérémie dira à la société, mais elle revient. Rappelle-toi ce que tes pères, tes grands-pères ont fondé, rappelle-toi sur quoi en Suisse aussi la Constitution a été fondée au nom du Dieu Tout-Puissant, pour qu'il y ait aussi ce réveil. Et notre rôle, eh bien, c'est d'être aussi des Jérémie. Mais un Jérémie, qu'est-ce qu'il dit aussi? Je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Et je te renouvelle chaque matin, ta fidélité est grande. Même en exil, a priori, même si la vision paraît morte, bien Dieu est là, Dieu est présent, et puis Dieu encourage. Un mot sur Jésus et les disciples, parce que je trouve aussi intéressant comme modèle. L'Ancien Testament, souvent, on se dit, mais en fait, Dieu a pris les gens par la main, leur a dit, mais vas-y, va là, fais ça, etc. Vous voyez, ça va très très bien marcher. Alors, est-ce qu'il y a un modèle qui est différent? Et lorsqu'on approche le Nouveau Testament, il y a là, on a une espèce de fenêtre, hein, c'est la fenêtre des 3 ans environ des disciples. Eh bien, on voit que les disciples ont été avec le maître. Donc, il y a eu un temps juste exceptionnel et on pourrait tous rêver de se dire, ah, mais ça va si j'avais été des disciples de Christ, alors je peux être disciple de Christ, mais l'avoir vu, avoir cheminé, avoir été présent avec lui, ça a dû être quelque chose d'extraordinaire. J'ai juste cité 2 versets. Le fameux débriefing de Marc 6:30, les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. C'était pour eux, pour leur maturité, évidemment, du face-à-face. Hein. Ils sortaient, ils avaient une mission, ils allaient voir un village et ils revenaient et ils racontaient. Puis Jésus leur disait, ben ça c'était bien, ça peut-être t'as pu faire, tu pourrais faire autrement ça, tu aurais pu répondre ça. Et puis il les enseignait, on voit justement la suite. Jésus envoya la foule, entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui en disant, mais explique-nous. Et c'est vrai qu'il y a eu dans ce sens-là une période de très très courte. Alors on verra plus tard comment cette période a été remplacée. Mais même dans cette période-là, eh bien les disciples n'ont pas été épargnés parce que Jésus aurait pu très bien leur dire, bon ben, écoutez, attendons la fin du débriefing, dormez ici parce qu'il y a une tempête qui va arriver ce soir. Et pourquoi si Jésus leur dit, mais écoutez, maintenant vous passez à l'autre rive alors que lui va sur la montagne pour prier. Il sait que la tempête va arriver. Pourquoi dire à ses disciples d'aller sur la barque et puis expérimenter cette tempête? Mais parce qu'il sait que dans la maturité, bien sûr, l'enseignement c'est bien, mais à un moment la pratique c'est nécessaire et la pratique va se faire à travers la tempête. La pratique se fait à travers les difficultés dans nos vies. Et c'est vrai qu'il y a toujours des tempêtes dans nos vies. Est-ce que vous avez vécu vraiment une longue période où vraiment on pourrait dire tout était heureux, tout baignait comme on dit? Est-ce qu'il n'y a pas toujours eu en parallèle un problème, une situation compliquée? Notre vie avec Dieu, notre maturité grandit avec ces deux choses, ces deux aspects en parallèle. Mais ce qui est beau, c'est que dans la tempête, alors que la barque était au milieu du lac, battue par les vagues, Jésus allait avec eux en marchant sur le lac. Jésus vient avec eux, Jésus est présent dans la tempête. Donc vous voyez, chaque fois on retrouve un peu le même schéma dans l'Ancien Testament, c'est que si on expérimente dans cette croissance, dans la maturité des choses compliquées, Dieu est toujours là, Dieu nous rattrape, Dieu nous rejoint. Ou si on se dit, mais il n'était pas là, mais oui, il était là, il t'a encouragé, tu n'as peut-être pas vu. J'avais juste un tout petit exemple, lorsque j'avais dit dans ma prédication, les enfants avaient explosé de rire, mais lorsque je voyageais beaucoup pour l'esprit dans l'international, et j'avais fait un voyage au Canada, et c'était, il durait 3 semaines ce voyage, et c'était le début de la 3e semaine, et je trouvais lourd d'être loin de ma famille, et j'avais 200 km pour aller à Winnipeg, sur une route droite, il n'y avait rien, il y avait juste de l'air. Et là, vraiment, j'avais tellement allé dans l'autre sens, et puis, rejoindre ma famille, j'étais vraiment découragé. Et puis, tout à coup, qu'est-ce que je vois? Un petit chien de prairie, qui était au bord de la route, et quand il voit, qui se lève comme ça, puis 50 mètres après, un deuxième, et sur 2 km, il y a eu, tous les 50 mètres, un chien de prairie qui s'est levé, comme s'il voulait dire coucou, Eric, t'encourage pas. Écoute, on est là même pour t'encourager. Et c'est juste un exemple pour montrer à quel point Dieu prend soin de nous, même à travers les détails, à travers la création, même à travers ces animaux, pour nous encourager. Et à la fin, les disciples, à la fin de leurs 3 ans, ils pouvaient dire, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Donc c'est vrai que c'est toujours après coup qu'on se dit, mais c'est vrai, Seigneur, en fait, là, j'ai manqué de rien. Mais le parcours a été chaotique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi important, lorsqu'on donne un témoignage de vie, d'oser dire que le parcours avait été chaotique. Pas juste dire, mais c'est vrai, mais ma vie a été juste magnifique. Je me rappelle quand M. Descorvet, son épouse, donnait des cours de couple, il avait juste raconté un exemple d'un anniversaire de mariage où les gens disaient, mais c'est vrai qu'on a... Le mari disait à son épouse, mes chéris, on a eu 25 années de ciel bleu, et puis le fils de Descorvet était là, il avait dit à ses parents, mais quelle sécheresse. Donc comment est-ce que nous racontons les choses? Est-ce que nous osons dire aussi? Est-ce que nous osons être vulnérables? Parce que la Bible nous parle de gens qui ont été vulnérables. Et à travers cette vulnérabilité des exemples de la Bible, je peux m'approcher, je peux dire, mais si eux ont vécu ça, si c'était difficile pour eux, si un homme de Dieu comme Élie a eu un burn-out, et moi j'en ai un, ben c'est possible. Et ça enlève la culpabilité, donc la Bible est pleine de trésors dans ce sens-là. L'exemple du chemin d'Emmaüs, pourtant, les disciples savaient que ça allait s'arrêter, hein, ils savaient que c'était pas pour toujours que Jésus était là, il leur avait clairement annoncé qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Mais sur le chemin d'Emmaüs, c'est bien, ils se rendent, ils sont découragés, ils discutent ensemble de tout ce qui s'est passé. Et puis, tout à coup, il y a quelqu'un qui marche à côté d'eux. Et moi, j'aimerais tellement, c'est vrai que dans toute notre croissance vers cette maturité, il y a chaque fois ce voyageur qui voyage avec moi, que je reconnais peut-être pas cette personne qui est là. Et puis il lui dit, mais de quoi vous parlez aux marchands? Pourquoi avez-vous l'air si triste? Et tout à coup, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, et puis Jésus disparaît. Donc Jésus, dans ce sens-là, c'est aussi intéressant de voir que, mais où étais-tu, Jésus? Jésus est juste là au bon moment pour nous. Il est directement dans nos cœurs, par la parole, par l'encouragement d'une personne. Mais ensuite, il nous laisse seuls. Notre responsabilité, c'est à nous de cheminer. Comme je le disais, l'Ancien Testament, de prendre par la main quelqu'un tout le temps, au moment où on devient mature, un enfant, il ne va plus garder votre main s'il a 9-10 ans, il va aller faire lui-même son chemin. Prendre par la main, c'est un petit moment de la vie. Mais Dieu est toujours là, et on voit alors cette nouvelle motivation lorsqu'ils ont vu Jésus. Il y a quatre choses qui se sont développées chez les disciples d'Emmaüs. D'abord, la prière reste avec nous. Ensuite, pendant que Jésus était à table avec eux, il prit le pain. La fraction du pain, l'envie d'être avec les frères et sœurs. Ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait au chemin, nous expliquait les Écritures. Ça, c'est la valeur de la parole de Dieu. Et dire aux autres, c'est votre, le Seigneur est réellement ressuscité. Ça, c'est vraiment le témoignage pour ceux qui sont là. J'ai là sur le Ralph Chalice, vous avez certainement lu, si tu veux aller loin, avec les quatre piliers. Donc la prière, la lecture de la Bible, la communauté et le témoignage. Donc, à quelque part, d'avoir juste cheminé un moment avec le ressuscité, ça leur a donné l'énergie de rechanger de direction. Ils ont quitté Emmaüs, ils sont revenus à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que Jésus leur avait dit qu'il allait être là. On pourrait dire, ben voilà, ils le retrouvent, mais c'est juste pour 40 jours. 40 jours après, ils vont se retrouver sans le maître. J'ai juste mis la photo à Jérusalem, quand on va là-bas, côté de la montagne des Oliviers. On peut imaginer que le Seigneur a posé ses pieds, ça ne fait tellement pas l'endroit précis, mais c'est juste pour visualiser, c'est-à-dire que, voilà, il n'est pas dans le tombeau, il n'est pas non plus encore sur la colline à attendre, mais il est dans le ciel, c'est là qu'il nous accompagne. Et après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient. Une nuée le cacha à leurs yeux, ils retournent à Jérusalem. Donc ils ont vécu vraiment un petit moment, c'était une petite communauté de privilégiés. Alors on pourrait se dire, mais quel est le message pour les autres? Alors c'est dans ce sens-là que la Pentecôte va généraliser, on peut dire, la présence de Dieu en nous. Il faut tous remplir du Saint-Esprit, l'Évangile est annoncé dans leur propre langue, 3000 personnes qui entendent parler de l'Évangile. Et puis, à ce moment-là, eh bien, c'est vrai qu'ils vont pouvoir se mettre en route. Mais là, il faut encore deux exemples des actes des apôtres pour montrer à quel point, justement, ce chemin de maturité, ce chemin d'obéissance à ce que Christ avait dit est quelque chose qui n'est pas si simple de comprendre ce que Dieu voulait. Premier exemple, eh bien, ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les différentes régions de Judée et de Samarie. Qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'au bout du monde. Si vous lisez les 7 premiers chapitres des Actes, ils ne sont pas bougés, ils sont restés à Jérusalem, dans leur mur. Aller ailleurs, c'était sortir de la zone de confort. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur permet une persécution. Donc la persécution ou l'épreuve est souvent aussi là pour nous aider à nous mettre en mouvement. Comme on disait, la persécution est pas bonne, mais c'est un pasteur chinois, parce que dans l'âme, qui disait toujours la persécution, elle est mauvaise, mais elle est bonne, parce que quand je suis allé en prison, il y avait 500 personnes dans mon église, et quand je suis revenu, il y en avait 1200. Quelque part, c'est de nouveau quelque chose que Dieu permet pour une mise en mouvement. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et les premiers disciples ont eu besoin de ce coup de pouce, si on peut dire, ce que ce soit coup de pouce, pour que l'Évangile puisse être annoncé. Le dernier exemple que je prendrai, c'est un exemple qui m'a touché personnellement. Pour être mes témoins, eh bien, Corneille avait complètement changé sa manière de voir. Lui était dans l'attente de quelqu'un qui viendrait avec lui, et il a fallu que Pierre, à ce moment-là, puisse venir à la rencontre. L'ange lui dit, bien, tes prières, Corneille, ont été entendues. Et puis à Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. Et pour moi, c'est vrai, quand j'ai commencé à porte ouverte, dans le milieu évangélique, je ne connaissais pas très très bien toutes les églises historiques, toutes les dénominations, je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir me comporter avec eux, est-ce qu'ils sont croyants, pas croyants, enfin toutes sortes de questions. Et puis ce texte d'Acte 10 était venu comme pour moi comme aussi une révélation des gens. Si tu considères ces gens comme impurs ou si tu as des questionnements, tu ne pourras jamais non plus me servir. Si tu vas me servir, eh bien tu vas rencontrer des frères et sœurs ou des frères et sœurs en devenir, mais tu vas aussi changer ton attitude. On voit que cette maturité est aussi de changer notre habitude, d'oser sortir notre vie de confort. Alors il reste du travail. C'est vrai qu'on se dit quand on lit l'Épître aux Hébreux, je ne sais pas si ça vous a frappé, parce que c'est juste le top du top, hein, le chapitre 1, Jésus le Fils au-dessus de tout, des anges, etc. Mais il faut s'accrocher, hein, la première fois qu'on lit ce texte-là. Et ça continue, puis tout à coup on arrive aux deux sacrificatures, Aaron et Melchisédek, on se dit, c'est quoi là, j'ai vraiment pas compris, et puis tout à coup l'auteur dit, mais en fait vous êtes devenus non à comprendre. Vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Oups, ça fait un peu un choc hein, quand on lit l'Épître aux Hébreux et qu'on arrive à ce chapitre-là. Bon, aussi Pierre qui leur dit, mais en fait vous devriez manger de la viande solide, du steak. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez être un petit biberon avec du lait. Et c'est pas seulement dans la compréhension intellectuelle des choses, mais c'est dans la manière dont la parole de Dieu est imprégnée et qui nous pousse à vivre pour lui. D'ailleurs, vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc il reste du travail. Et puis, lorsque nous voyons qu'il reste du travail chez les autres aussi, mais ne leur balançons pas un verset comme ça, mais encourageons-leur plutôt de dire, bah, écoute, et si tu serais d'accord, je t'invite au restaurant, et on sait que tu vas découvrir des choses que tu connais pas. On peut pas lui dire, bah, écoute, t'as l'honnête maintenant, autoriquement, il faut mettre ça à la poubelle, parce que ça va pas vraiment les encourager. Il faut les aider à les tirer, à les faire avancer, à les faire bouger. Et alors, pourquoi la maturité, ça arrive à la conclusion, pourquoi la maturité est quelque chose de difficile? C'est parce que la maturité, c'est la stature de Christ. Et la barre est, dans ce sens-là, tellement haute. On a eu un prédicateur qui était venu chez nous il y a une année, et qui nous disait, mais qu'est-ce que vous sautez, vous, en moyenne, on saute? Alors les gens disaient, ouais, moi, je sais pas, je suis encore à 1m40, 1m55. Il dit, non, mais on parle pas de ça, hein, on parle des Jeux Olympiques, c'était pendant les Jeux Olympiques, et la barre, elle était à 2,40, hein. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant pour, passer de 1,50 à 2,40? C'est ce goût qui est intéressant, c'est ce goût qui doit être votre préoccupation. Toute votre vie, si vous sautez à 1,50 m, les années passent, vous allez faire 1,45, 1,35. Si vous entraînez pas, vous allez finir peut-être à 1 m, vous sautez du tout, hein. Mais ce que Christ veut dire, eh bien, l'image de la maturité, eh bien, c'est jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, on voit vraiment des objectifs qui sont des objectifs très hauts, pas pour nous mettre la pression, mais juste pour nous dire que toute notre vie, il y a quelque chose à grandir, il y a quelque chose à faire, et ça ne s'arrête jamais. On souvent Amos qui dit, mais prépare-toi à rencontrer ton Dieu. On a souvent utilisé ce verset pour l'évangélisation. Mais prépare-toi à rencontrer ton Dieu, c'est aussi un objectif pour quelqu'un qui est peut-être un EMS. Je me rappelle ma grand-maman, elle avait, lorsqu'elle a été les derniers mois dans son EMS, elle avait demandé à les amis, est-ce que c'est d'accord qu'on baptise notre petit groupe de discussion, le dernier échelon? Vous avez trouvé très beau parce que chacun devait raconter une chose positive qu'ils avaient vécue aussi avec Dieu. Donc même au dernier échelon, il y a quelque chose pour se préparer à la rencontre de Dieu. Et nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête. Alors j'ai pas pu m'empêcher de vous présenter Armand Duplantis. Vous pouvez juste lever la main si vous avez déjà vu Armand Duplantis sauter. Oui, en vrai, oui, voilà. Non, non, mais à la télévision, perso, excusez-moi. Oui. Voilà. Et peut-être que ça vous a frappé, il a été interviewé il y a 2 semaines à la RTS. Et on voit que comme enfant, il avait installé dans son jardin tout un système de sauter à la perche. Il avait un vieux bâton de son grand-père pour sauter à la perche et on voit son évolution. Mais ce qui est frappant, c'est que lorsqu'il s'est trouvé aux Jeux Olympiques, il a gagné le saut à la perche à 6 mètres 2. Tous les autres avaient arrêté. Et à 6 mètres 2, il avait la possibilité de continuer le concours pour arrêter. Il avait la médaille d'or. Et les organisateurs sont venus vers lui et puis dit, monsieur Duplantis, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait son record du monde à 6,18. Il a dit, mettez la barre à 6,19. Alors il y a eu un roi dans le stade. C'était juste incroyable. Et puis il a tenté son saut, il n'a pas réussi. Il a eu 3 échecs à 6,19. Mais si vous suivez un tout petit peu l'actualité sportive, vous avez peut-être lu que le saut à 6 mètres 21 d'Armand Duplantis qui bat le record du monde lors des mondiaux d'athlétisme. Le Suédois a battu ce record du monde du saut à la perche dimanche à Eugene, dans l'Oregon, lors du championnat du monde d'athlétisme. C'était le 25 juillet 2022. Et ce que je voulais illustrer par là, c'est que si ce gars s'était dit, bon, à 6 mètres 2, mais de toute façon, je gagne tous les concours, il n'y a personne qui saute mieux que moi. S'il ne mettait pas la barre à 1 cm au-dessus, il aurait pu la mettre dessous, mais ce qui est intéressant, c'était pour lui, hein, ce centimètre de plus. Eh bien, il ne gagnerait pas une année après ces 6 mètres 21. Quand on l'interview, on lui demande, mais est-ce que vous pouvez faire encore mieux? Il dit, j'ai encore un petit truc, je pense, mais je ne peux pas vous le dire. Et pour moi, c'était un peu cette expérience à travers un sportif. C'est surtout cette envie, alors pour lui, c'est de sauter, mais nous, est-ce qu'on a envie d'atteindre encore plus cette maturité, cette stature de Christ, à le ressembler, à être des gens qui sont utiles, des gens qui transmettent. C'est vrai que pour la plupart d'ici, vous êtes dans une période aussi de transmission. Vous avez des enfants, comme on l'a dit, mais aussi des enfants adoptifs. Timothée était un enfant d'adoption de Paul. Et Paul lui disait, mais je t'en supplie, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorablement, réfute, reprends et prends courage. Sois sauvant, supporte les souffrances, accomplis la tâche de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. On sent allez, je te transmets vraiment quelque chose, c'est impressionnant. Dans ce verset-là, Timothée, mais tu peux y aller, hein, t'es à 6,02 mètres, mais t'as encore tellement de possibilités, 6,21 et plus. Mais, eh bien, tu dois être sauvant tout comme l'athlète. L'athlète est souvent pris comme un exemple dans le Nouveau Testament. Supporte les souffrances, ça ne va pas forcément être facile, on a parlé de l'Église persécutée. Mais remplis bien ton ministère. Donc, quelque part, on peut contribuer à la maturité, en fait, des autres. Et puis, le dernier verset que j'aimerais vous laisser. Eh bien, Paul, à la fin de sa vie, dit, j'ai combattu le bon combat. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et c'est aussi une tension. Et je me rappelle, il y a quelques années, quand mon frère André de Portes-Ouvertes sentait ses forces fléchir, il disait, mais moi, je veux encore là-bas, je veux encore aller une fois au Pakistan pour voir mes frères et sœurs. Tout le monde me dit, mais c'est stupide, tu ne dois plus le faire. Non, j'ai envie de le faire encore une fois, parce que pour moi, c'est mon appel, je veux aller jusqu'au bout. Et c'est ça, cette idée du bon combat, et puis se garder la foi. Eh bien, je pense que c'est vraiment l'objectif pour chacun de nous, de dire jusqu'au bout est-ce que je garde la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée, c'est aussi l'espérance qui est devant nous. Donc voilà quelques mots, un message que j'espère vous avoir plombé en vous disant, oh là là, mais disons cette route à maturité. Il y a tellement d'obstacles, il y a tellement d'entraînement, ça demande tellement d'énergie. Mais non, c'est dire qu'à chaque étape, Dieu est avec nous. Dans l'Ancien Testament, Jésus était avec les disciples, le Saint-Esprit est là dans nos vies, c'est lui qui nous donne ce souffle, qui nous donne cette énergie, cette vie, cette puissance, et que ensemble on ait envie de pouvoir oui, servir Dieu, mais surtout aller dans, c'est vrai, cette joie de la présence, la joie de la communion avec lui, pour qu'à quelque part nous puissions être la lumière comme tu l'as dit. Merci beaucoup pour votre attention.